J'ai un frère qui est porté sur la musique et l'art en général. Alors qu'il était encore étudiant, il s'était bricolé un tour pour fabriquer des poteries. Je trouvais fascinant de le regarder faire car il pouvait donner à l'argile qu'il façonnait la forme et l'épaisseur qu'il voulait. Il prenait de la vulgaire glaise et la transformait en un objet utile ou décoratif. À une époque, quand nous allions dans le sud de la France et surtout dans la Drôme, nous aimions nous arrêter dans un des ateliers de poterie qui longe la route et admirer les œuvres d'art qu'il vendait dans le magasin. Quand on a l'occasion d'observer le maître potier en train de travailler, on est surpris par la matière première, brute, qu'il utilise. C'est une masse informe et terne, grise ou brune qui ne ressemble à rien. Mais une fois qu'elle est passée entre ses mains expertes, il en sort un objet qui a de l'allure et où on devine déjà le produit fini. Il est alors peint et décoré par un artiste, puis mis en vente. Au fil des années, nous avons acheté plusieurs poteries pour offrir à des amis ou que nous utilisons nous-mêmes. Par exemple, nous conservons l'huile d'olive dans un récipient qui a la forme d'une bouteille dont la couleur de fond comprend plusieurs tons de jaune et d'orange et sur laquelle sont dessinées des olives au bout de leurs tiges. C'est très joli. Plusieurs prophètes de l'Ancien Testament et l'apôtre Paul utilisent l'image du potier et de l'argile pour communiquer plusieurs vérités essentielles concernant l'Éternel et l'homme. Je commence à lire le chapitre 18 de Jérémie. L'Éternel parla à Jérémie en ces termes. « Va, rends-toi chez le potier, et là je te ferai entendre ma parole. » Je me rendis donc chez le potier qui était en train de travailler sur son tour. Verset 1 à 3. Dieu envoie Jérémie dans un atelier de poterie afin qu'il observe un incident qui est en fait une parabole. Dans cette petite histoire, il n'est pas difficile d'identifier le potier et l'argile. Le premier, c'est bien sûr l'Éternel et le second, Israël. Mais ce dernier est aussi une image pour l'humanité en général et les individus en particulier. Chacun d'entre nous est une masse d'argile sur le tour du Créateur, le potier céleste. Au commencement, il a pris de la terre et a formé l'homme dans sa partie physique. Dans la Genèse, nous lisons « L'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol, il lui insuffla dans les narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » Mais d'autre part, Dieu travaille aussi dans le cœur des êtres humains durant toute leur vie terrestre. Je continue maintenant le texte de Jérémie. « Mais le récipient que le potier façonnait avec l'argile ne fut pas réussi. Alors le potier en refit un autre, comme il le jugea bon. » Verset 4. Jérémie observe le potier qui travaille devant son tour. Il fait tourner une roue en appuyant sur des pédales avec ses pieds, tandis qu'avec les mains, il façonne un objet. Mais il est raté. Peut-être que l'argile était trop dure ou trop molle. Qu'à cela ne tienne, il en refait un autre. C'est le potier qui seul décide ce qu'il va faire. Il a tous les droits sur cette pâte à modeler et son pouvoir sur elle est illimité. Aucun bloc d'argile ne peut l'arrêter, lui résister ou contester sa façon d'agir. La glaise ne peut strictement rien changer aux décisions que prend le maître. Dans les contes pour enfants, les animaux et les arbres parlent, mais dans la réalité, l'argile ne pipe pas un mot. Elle ne peut que se soumettre aux mains du potier. Cette illustration est probablement la meilleure qui soit de la souveraineté absolue de Dieu sur sa création et ses créatures. Dans une de ses épîtres, l'apôtre Paul écrit « Le potier n'a-t-il pas le droit, à partir du même bloc d'argile, de fabriquer un pot d'usage noble et un autre pour l'usage courant ?» Et à son disciple Timothée, il dit « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, il y en a aussi en bois et en terre cuite. Les premiers sont réservés aux grandes occasions, les autres sont destinés à l'usage courant. Eh bien, si quelqu'un se garde pur de tout ce dont j'ai parlé, il sera un vase destiné à un noble usage, purifié, utile à son propriétaire, disponible pour toutes sortes d'œuvres bonnes. » Fin de citation. Au départ, je ne suis qu'un bloc disgracieux de terre glaise quelconque, mais il ne tient qu'à moi de devenir un vase destiné à un noble usage. Depuis le siècle précédent, le mot à la mode est liberté. Tout tout le monde veut être libre de faire ceci ou cela. Liberté d'expression, droit de grève, de protester et même de tout casser. De plus, notre société décadente est très soucieuse de protéger les droits des criminels. Dans tout ça, on a oublié les droits de Dieu. Pourtant, c'est lui le patron et il peut faire ce qu'il veut dans cet univers qui lui appartient et nul n'a le pouvoir de s'opposer à sa volonté et le jour viendra où ce sont ses objectifs qui se réaliseront. Son autorité est absolue. Dieu n'a de compte à rendre à personne, ni à un conseil d'administration, ni à des électeurs pour lesquels le politicien moyen se plie en quatre afin d'obtenir leur suffrage. Pour Dieu, l'homme rebelle est une particule insignifiante et la terre un grain de poussière négligeable. Le psalmiste écrit « Ô Éternel, mon Dieu que tu es grand, tu es revêtu de splendeur et de magnificence, tu as pour manteau la lumière, dénué, tu te fais un char, tu te déplaces sur les ailes du vent, Dieu chevauche triomphant les nuées sur son char. » Fin de citation. À l'homme qui conteste, l'apôtre Paul répond « Mais qui es-tu donc, toi, homme, pour critiquer Dieu ? L'ouvrage demandera-t-il à l'ouvrier ? Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Fin de citation. Dieu sait très bien de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Le problème est que nous l'oublions et nous enlisons en nous-mêmes et pourtant, nous n'avons pas de quoi nous vanter. Dans une de ses épîtres, Paul écrit « Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Et ailleurs, il dit aussi « Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » Je dois accepter que Dieu est le souverain potier et que je ne suis qu'une particule d'argile coupable devant lui. Dieu a dit à Moïse, « Je ferai grâce à qui je veux faire grâce. J'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. » Cela ne dépend donc ni de la volonté de l'homme, ni de ses efforts, mais de Dieu qui fait grâce. Fin de citation. Dieu n'a aucune obligation envers qui que ce soit et il est entièrement libre d'agir à sa guise. C'est vrai que c'est vexant pour l'orgueil humain, mais se rebeller est un non-sens et une partie perdue d'avance, car que peut l'argile face à son maître? Le potier devant son tour appuie sur les pédales qui font tourner la roue des circonstances de ma vie. C'est ainsi que Dieu œuvre en chacun de nous au travers de ce qui nous arrive. Quelqu'un a écrit « Au jour des illusions, c'est la grande confusion d'où nous tirons nos conclusions. » Effectivement, la vie ne semble pas avoir de sens. Cependant, derrière le potier, sur des étagères, sont rangées ses dernières œuvres et elles sont magnifiques. Avant qu'il ne les travaille, ce n'était que de vulgaires masses d'argile informes. Mais sous ses doigts agiles et au gré de la roue des circonstances, elles sont devenues des objets d'art. Mais que désire donc le potier céleste, le grand architecte de la nature? De l'argile, tout simplement. Il ne veut ni de l'acier, ni de l'huile, mais de l'argile souple qui accepte de se laisser former dans ses mains selon son bon vouloir. C'est là tout le problème, car la terre du sol est inerte, elle n'a pas de volonté propre, tandis que moi, si, la glaise ne peut pas choisir de collaborer avec le potier. Mais moi, oui, car nous sommes dotés du libre arbitre, de la possibilité de choisir
entre le bien et le mal.
Maintenant, j'ai une question à poser au potier céleste. Pourquoi veut-il me façonner? Si je retourne dans l'atelier du maître potier pour le regarder travailler, je me rends vite compte qu'il ne s'amuse pas, mais qu'il se donne entièrement à son travail. Et il y met toute son habileté parce qu'il veut réussir son œuvre. Dieu non plus ne joue pas avec nous. Il ne tente pas des expériences, mais il a un objectif en vue. Le potier céleste est absolument souverain, mais dans ses cartons, il a un projet pour moi. Personnellement, je trouve cette pensée réconfortante parce que ma galère ne vogue pas au hasard des vagues. Le potier céleste a un plan pour sa masse d'argile. Il sait ce qu'il veut en faire. Quand il actionne les pédales et fait tourner la roue des circonstances, c'est dans un but précis. L'apôtre Jean écrit « Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. » Dieu Père veut que ses enfants deviennent semblables à son Fils afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Fin de citation. Un beau matin, je comprendrai ce que le potier céleste faisait avec moi sur son tour. En attendant ce jour glorieux, il désire que sa masse d'argile se laisse modeler afin qu'il puisse en faire un objet d'art qu'il pourra placer sur l'étagère derrière lui. Si j'étais admis au troisième ciel, je pourrais le voir travailler et je verrais aussi que ses pieds qui appuient sur les pédales et ses mains d'artiste qui me façonnent avec expertise portent des marques de clous. Avant de se pendre, Judas a jeté dans le temple les 30 pièces d'argent qu'il avait reçues pour trahir Jésus. Les chefs des prêtres ramassèrent l'argent et déclarèrent « On n'a pas le droit de verser cette somme dans le trésor du temple car c'est le prix du sang ». Ils tinrent donc conseil et décidèrent d'acquérir avec cet argent le champ du potier et d'en faire un cimetière pour les étrangers. Voilà pourquoi ce terrain s'appelle encore de nos jours le champ du sang. Fin de citation. Si le champ du potier est devenu le champ du sang, c'est parce que le potier céleste a versé son sang pour le monde entier. Je continue le texte de Jérémie. Là-dessus, l'Éternel me parla en ces termes. « Ô peuple d'Israël, ne puis-je pas agir à votre égard comme a fait ce potier ?» demande l'Éternel. « Vous êtes entre mes mains comme l'argile entre les mains du potier, communauté d'Israël. Une fois je décrète de déraciner une nation ou un royaume, de le renverser et d'amener sa ruine, mais si cette nation que j'ai menacée cesse de mal agir, je renoncerai à lui envoyer le malheur que j'avais projeté contre elle. Et si par contre je parle de construire et de planter telle nation ou tel royaume, mais que cette nation fait ce que je considère comme mal et ne m'écoute pas, je renoncerai au bien que j'avais parlé de lui faire. » Versets 5 à 10. Malgré l'imminence du jugement, Israël pouvait encore être restauré et devenir une poterie agréable à l'Éternel. Ce passage semble indiquer que Dieu aligne sa conduite sur celle des hommes. Mais ce n'est qu'une apparence, car dans le conseil de Dieu, sa manière d'agir ne change pas au gré des circonstances parce qu'elle fait partie de ses décrets éternels. Je continue. « Dis donc maintenant aux Judéens et aux habitants de Jérusalem, voici ce que déclare l'Éternel. Moi, je façonne votre malheur et j'ai des projets contre vous. Que chacun de vous abandonne donc sa conduite mauvaise, qu'il se comporte et qu'il agisse d'une bonne manière. Mais ils te répondront, c'est peine perdue, nous ferons à notre tête et chacun suivra les penchants de son cœur mauvais. » Versets 11 et 12. Fini l'hypocrisie. Les Israélites déclarent ouvertement qu'ils ne se repentiront pas. Les menaces de l'Éternel resteront lettre morte parce que la nation s'était endurcie au point de s'interdire tout changement. Je continue plus loin. « Avez-vous jamais vu la neige abandonner les rochers du Liban ? Avez-vous vu tarir les eaux qui en descendent, ces eaux qui coulent fraîches ? Mais mon peuple m'oublie. Il offre des parfums à des faux dieux qui, sur sa route, le font chanceler et qui lui font quitter les chemins de toujours pour marcher sur des sentiers et des routes qui ne sont pas frayées. » Verset 14. Jérémie oppose la permanence des phénomènes naturels à l'inconstance d'Israël. Je continue plus loin. Alors certains se mirent à dire « Allons, préparons quelque chose contre ce Jérémie. On trouvera toujours des prêtres pour enseigner la loi, des sages pour nous donner des conseils, ainsi que des prophètes pour proclamer une parole. Venez, attaquons-le avec des calomnies et ne prêtons plus attention à tout ce qu'il nous dit. » Verset 18. Le peuple était guidé par les prêtres qui étaient chargés d'enseigner la loi, par les prophètes qui délivraient des oracles de la part de l'Éternel et par les sages qui dispensaient leurs conseils pour la vie politique. Le complot des Israélites contre Jérémie consiste d'abord à le calomnier et ensuite à l'accuser de blasphème et à le faire exécuter. C'est ce que les religieux ont fait avec Jésus. Je continue et finis le chapitre 18 en compressant. « Mais toi, ô Éternel, prête-moi attention, écoute ce que disent ces gens qui me cherchent querelle. Rendront-ils le mal pour le bien ? Ils creusent une fosse pour m'y faire tomber. Souviens-toi, Éternel, que pour plaider en faveur de ces gens, je me suis tenu devant toi en vue de détourner ta colère loin d'eux. À cause de cela, livre leurs fils à la famine et précipite-les sur le fil de l'épée. Prive leurs femmes de leurs enfants, qu'elles deviennent veuves, que leurs maris soient frappés par la peste et que leurs jeunes gens soient frappés par l'épée dans le combat. Mais toi, ô Éternel, tu connais bien leur plan pour me faire mourir. Ne pardonne pas leur forfait. » Versets 19 à 23. Sa vie menacée, Jérémie implore la protection divine et prononce une nouvelle imprécation contre ses ennemis. Je commence à lire le chapitre 19. Voici ce que l'Éternel m'a dit. « Va acheter chez le potier une jarre en terre cuite. » Prends avec toi quelques responsables du peuple et des responsables d'entre les prêtres. Verset 1. Le chapitre précédent enseignait que Dieu a le droit de traiter ses créatures en fonction de sa justice qui punit leur mauvaise conduite. Maintenant, Jérémie annonce une fois encore que Dieu va détruire son peuple. Comme rien ne se fera en secret, les responsables de l'ordre politique et religieux sont invités à assister à un nouveau mime prophétique. Je continue. Ensuite, tu sortiras dans la vallée de Ben-Hinnom, à l'entrée de la porte de la poterie. Là, tu proclameras les paroles que je te communiquerai. Tu parleras ainsi. Vous, les rois de Juda, et vous, les habitants de Jérusalem, écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, le Dieu d'Israël. « Je vais envoyer sur ce lieu un terrible malheur à faire tinter les oreilles de ceux qui l'apprendront, parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont profané ce lieu en offrant des parfums à des dieux étrangers qu'ils n'avaient pas connus, ni eux, ni leurs ancêtres, ni les rois de Juda. Ils ont rempli ce lieu du sang des innocents et ils ont érigé des hauts lieux à Baal pour brûler leurs enfants en holocauste pour Baal. C'est bien là quelque chose que je n'ai pas ordonné, dont je n'ai pas parlé et qui ne m'est pas venu à la pensée. C'est pourquoi le temps vient, l'Éternel le déclare, où cet endroit ne sera plus nommé le Tophet ni la vallée de Ben-Hinnom, mais on l'appellera la vallée du massacre. » Versets 2 à 6. Tophet signifie tambour. C'est un autre nom pour Ben-Hinnom, une vallée à l'extrémité sud de Jérusalem où on sacrifiait des bambins à l'idole Moloch. Quand les enfants étaient brûlés vifs, on battait du tambour pour couvrir leurs cris. Le culte à l'Éternel se distinguait des religions païennes en ce qu'il interdisait formellement les sacrifices humains, d'où l'indignation de Dieu. Cette vallée était aussi le dépotoir de la ville où des ordures brûlaient en permanence. Plus tard, cet endroit devint le symbole du feu éternel de la Géhenne, un autre mot pour l'enfer. Je continue le texte. « J'anéantirai ici les plans de Juda et de Jérusalem, et je les ferai succomber par l'épée de leurs ennemis et par ceux qui en veulent à leur vie. Je livrerai leurs corps en pâture aux rapaces et aux bêtes sauvages. Je transformerai cette ville en un lieu dévasté qui sera tourné en dérision. Tous ceux qui passeront par là en seront stupéfaits. Ils se moqueront de toutes ces plaies. Je leur ferai manger la chair de leurs enfants, de leurs fils et de leurs filles. Ils mangeront la chair chacun de son prochain dans les affres du siège et au sein de l'angoisse auxquelles les réduiront leurs ennemis, ceux qui en veulent à leur vie. » Versets 7 à 9. Ce type de cannibalisme était l'un des châtiments prévus par l'Alliance de la Loi en cas de rébellion contre l'Éternel. Ces paroles se sont accomplies littéralement lors des deux sièges de Jérusalem par Nabuchodonosor et le général romain Titus. Afin de survivre, certains assiégés mangèrent les membres de leur famille ou des amis. Je finis le chapitre 19 en compressant. Ensuite, tu briseras la jarre devant ceux qui t'accompagneront et tu leur diras, Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. « Je briserai ainsi ce peuple et cette ville, tout comme on brise un récipient que le potier a fabriqué, et l'on ne pourra plus le réparer. On enterrera les morts au Tophet, faute de place ailleurs. Les maisons de Jérusalem et celles des rois de Juda seront aussi impures que ce lieu du Tophet. Oui, toutes les maisons où ils ont fait brûler des parfums sur les toits pour tous les astres et fait des libations à des dieux étrangers. » Versets 10 à 11 et 13. Les rois de Juda avaient édifié des autels idolâtres sur les terrasses de leurs palais d'où ils rendaient un culte au soleil, aux planètes et aux étoiles. Et les Israélites faisaient de même sur les toits plats de leurs maisons. Jérusalem deviendra un dépotoir de cadavres et toutes les habitations étant remplies de morts, elles seront cérémonieusement impures selon la loi de Moïse. Ce tableau épouvantable ne sera que provisoire car Jérémie a déjà prophétisé qu'à la fin des temps, on nommera Jérusalem trône de l'Éternel et toutes les nations s'assembleront en elle au nom de l'Éternel, oui, à Jérusalem.